en toute liberté.
Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Djoliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service des citoyens et de la démocratie. Mesdames, Messieurs, notre invité de ce numéro est un jeune politique, brillant jeune politique, membre du CNT, Conseil national de transition. Il est aussi le président du Front africain pour le développement. Vous l'aurez compris, notre invité est Noussar. Noussar, bonsoir.
Bonsoir, Ataïr.
Merci de répondre à notre invitation.
C'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Oui, le plaisir est partagé. Et Noussar, nous sommes au mois de Ramadan, et puis un peu de chaleur, et les coupures. Quel est votre message par rapport à ça? Ils sont nombreux hein, qui souffrent aujourd'hui dans la capitale malienne, même à l'intérieur du pays, de coupures sauvages d'électricité en ce mois béni de Ramadan.
C'est tout à fait exact, mais avant tout, je voudrais m'incliner pieusement devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et qui continuent de tomber, pour que l'intégrité de notre territoire, la défense de nos intérêts et surtout la restauration des dignités de notre peuple soit une réalité. Vous évoquez la question de l'électricité qui est une question importante. Et il faut d'abord se rappeler que c'est un problème structurel qui, depuis plusieurs années, n'arrive pas à connaître les solutions. Des solutions. Même si certaines initiatives ont été prises, il est important de dire la vérité aux Maliens sur ce sujet-là. Okay. Pendant plusieurs décennies, il n'y a pas eu d'investissement majeur dans le secteur de l'énergie qui n'a pas été au cœur des préoccupations des responsables qui ont dirigé le pays. Je crois qu'aujourd'hui, nous payons le prix de ces absences de décisions dans le passé. Et il faut faire face, reconnaître ce qu'il y a à reconnaître, mais aussi dire la vérité sur les choses. La société EDM se trouve aujourd'hui dans de grandes difficultés financières, avec plusieurs dizaines de milliards d'impayés, de dettes impayées, avec divers créanciers, quoi, de dettes impayées. C'est une réalité. Le gap que doit combler l'État n'est pas toujours là, sur la table. Okay. C'est un problème majeur qu'il faudra, de façon structurelle, essayer de résorber. Si nous prenons le coût de l'électricité au Mali, la production, c'est plus de 160 francs, 1 kW, mais à la vente, c'est 90 francs. Je me pose la question de savoir quelle est la nature de ce commerce où on travaille à perte. Donc il faudra à un moment donné aller sur la vérité des prix, investir dans des énergies renouvelables, faire en sorte que nous ayons des sources d'énergie moins onéreuses, telles que le solaire, telles que le gaz. Mais ça, ce sont des projets qui se mettront à moyen et long terme pour juguler ce problème-là. Pour le moment...
Il n'y a pas de solution.
Je crois qu'il y a des tentatives, il y a des efforts qui sont en cours. Oui. La preuve, la semaine dernière, il y a eu moins de coupures que la semaine avant cette semaine. Okay. Et je crois qu'il y a des efforts qui sont en cours. Tout n'est pas rose, tout ne peut pas être rose.
D'accord.
Il est important de procéder à un véritable
Gao, la ville de Gao qui est dans le noir depuis une semaine aujourd'hui, c'est quand même une situation qui interpelle.
Absolument, je suis d'accord. Et les responsabilités doivent être situées. Nous sommes aujourd'hui aux affaires, nous assumons pleinement ces difficultés-là qui ne remontent pas certainement à aujourd'hui, mais ce n'est pas une excuse. Il faut tout mettre en œuvre pour que notre peuple puisse accéder à l'énergie qui n'est plus un luxe, c'est une nécessité.
Ok. Voilà. Parlons maintenant de la vie chère. Parlons de la vie chère. La question revient toujours. Le citoyen moyen se plaint de prix de denrées de première nécessité. Il se plaint du coût de la vie qui devient pour lui de plus en plus cher. Et face à la vie chère, quelle réponse?
Vous savez, la vie chère se trouve aujourd'hui une réalité en raison du contexte mondial. La guerre en Ukraine a joué considérablement sur l'approvisionnement de plusieurs pays. Elle a entraîné une hausse vertigineuse des prix du carburant, et de l'essence, du gasoil et tout.
Oui.
Et vous savez bien que quand le carburant monte, tout monte,
oui,
parce que c'est interlié. Mais ceci dit, il faut avoir le courage de dire et de reconnaître que les autorités maliennes ont fait des efforts, en tout cas de mémoire d'homme, qu'aucune autorité au cours des 15 dernières années n'a fait. Le prix du carburant à Bamako est moins cher qu'à Dakar. Dakar, ils ont accès au littoral, ils ont un port. Le Mali s'approvisionne essentiellement à partir de Dakar. Et si le prix du carburant est moins cher à Bamako qu'à Dakar, c'est que quelque part, les autorités de notre pays ont fait des efforts, ont renoncé à beaucoup de taxes sur le carburant. C'est vraiment à saluer.
Okay.
Et pour cela, il y a d'autres raisons à l'augmentation de prix des denrées. Il y a cette histoire de taxes conjoncturelles à TCI, la taxe conjoncturelle à l'investissement, qui est vraiment une épine dans le pied de notre pays. Il se passe quoi? C'est que dans les années 90, à la faveur des programmes d'ajustement structurel, les pays ont jugé nécessaire de mettre en place cette taxe-là pour préserver le tissu, l'embryon de tissu industriel.
Okay.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour amener le sucre au Mali, pour être exonéré de cette taxe, il vous faut préalablement acheter une certaine quantité au niveau de Soukala et de N-Soukala. Ce que je n'approuve pas, je l'ai dit aux autorités, libéraliser ce secteur. Si Soukala et N-Soukala ne sont pas capables d'être compétitifs sur le marché, ils n'ont qu'à fermer boutique. Mais en raison du fait que les autorités tiennent à préserver les emplois, qui encore, personne ne dit que ces emplois sont menacés. On ne peut pas comprendre que le sucre produit localement soit plus cher, soit plus compétitif, soit moins compétitif que le sucre qu'on importe. Donc il faut sortir de la TCI, de la taxe conjoncturelle à l'importation. Parce que quelque chose qui est conjoncturel, c'est quelque chose de momentané. C'est pas, ça dure des décennies, ça dure aujourd'hui, ça dure des décennies.
Et
il faut sortir de ça pour que tous ceux qui peuvent amener le sucre sur le marché malien, si M. Atter veut amener 10 kilos sur le marché, qu'il soit autorisé. On se trouve aujourd'hui pris en otage par 14 opérateurs économiques qui ont la capacité de s'approvisionner chez Soukala et N-Soukala et qui bénéficient d'une exonération de la taxe conjoncturelle, ce qui est quelque chose d'inacceptable. Et c'est pourquoi nous plaidons pour la fin de la TCI. Le seul argument qu'on a pu nous opposer, c'est que la TCI permet de protéger des industries qui sont locales. Mais ce n'est pas notre rôle. L'État ne doit pas être dans le protectionnisme. Encore que ces industries-là ne sont pas transparentes sur leurs charges. Souvenez-vous que Soukala SA, le logiciel comptable de cette société, était en chinois. Alors que le Mali à environ 20% dans cette société. Il a fallu, il faut rendre hommage au ministre des Finances, il a fallu que le ministre des Finances tape du poing sur la table pour leur dire arrêtez le logiciel d'une entreprise où le Mali a des actions ne peut pas être en chinois.
Donc ça veut dire que, pourquoi il était en chinois?
Il était en chinois parce que les gens ne sont pas transparents.
Ce
n'est pas une société où ils sont transparents sur les coûts de production.
Est-ce qu'il parle chinois?
Qui parle chinois?
Ces gens, qui ont mis le logiciel là, qui ont utilisé.
Mais vous savez que c'est quand même une entreprise détenue à 80% par des Chinois. Par des Chinois. Et donc, je crois que le moment est venu de poser ce vrai débat-là, sortir de la TCI et sortir de ça pour que notre pays puisse dire, puisse souffler un peu. Okay. C'est vraiment un cri de cœur, c'est une interpellation.
D'accord.
Et nous allons, à l'intérieur du CNT, les jours à venir, si besoin, interpeller les responsables qui sont en charge de ce
sujet. D'accord. Problème. Votre ancien ami, si je peux parler ainsi, Rasbat, vous avez fait la plateforme Ante Abana, touche pas à ma conscience, ensemble. Hein, nous sommes en 2017. Aujourd'hui, il est en prison. Et qu'est-ce que cela vous dit?
Bon, on ne peut pas se réjouir de voir quelqu'un en prison. C'est quand même quelque chose que l'humanité nous interdit, notre humanisme nous interdit formellement de nous réjouir de voir quelqu'un en prison. Ceci dit, nous sommes dans un pays, un état de droit. Lorsque il vous est reproché quelque chose, vous devez aller répondre conformément aux règles de l'art. Ce dossier a fait couler beaucoup d'encre. Nous avons vu M. Youssouf Bachely lors de la conférence nationale d'un parti politique de la place, accuser publiquement les autorités actuelles d'avoir assassiné un homme politique de premier plan. J'ai condamné ces propos et j'ai estimé que M. Soumaïlo Boué Maïga a servi au sommet de l'État. Il a certainement fait des choses bonnes, même si nous ne partageons pas la même vision.
Oui.
Il ne mérite pas, sa famille ne mérite pas que l'on puisse instrumentaliser sa mémoire. Laissons la famille faire son deuil. Cette famille a souffert certainement. Et utiliser la mémoire d'un tel homme pour non seulement continuer à chagriner la famille, utiliser sa mémoire pour, à des fins politiciennes, ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Nous avons fait l'opposition politique durant 7 ans ici. Un journaliste a disparu. Birama Touré, à aucun moment vous n'avez vu un seul responsable de l'opposition politique accuser les autorités d'alors d'avoir assassiné Birama Touré, même si un journaliste l'a écrit, même si un organe de presse a indiqué qu'il a été assassiné. Je crois qu'on peut avoir des divergences. On peut être contre des prises d'opposition. On peut être contre la façon de gérer de son pays. Mais cela ne doit pas nous amener dans le champ de la haine au point d'accuser des autorités d'avoir
assassiné. Donc pour vous, c'était le champ de la haine, ce qu'il a dit.
Mais
il suffit de regarder. Vous ne le comprenez pas. Vous n'avez pas tenté d'essayer de comprendre un peu ce qu'il voulait dire.
Non, mais quand vous dites clairement que j'ai vu le samedi dernier dans une salle de la place des anciens collaborateurs de l'ancien Premier ministre mettre en place une plateforme pour soutenir les assassins de l'ancien Premier ministre, c'est quand même quelque chose qui sort du champ du normal, qui sort du champ du combat politique et qui embrasse le champ de la haine. Ce n'est pas productif. Ce n'est pas productif.
Okay.
Et voilà, c'est un grand frère de la Fiaboukou. Je souhaite que tout aille bien pour lui et que la justice fasse correctement son travail. Qu'on n'abuse pas, que ses droits soient respectés et qu'on n'entrave pas les défenses, les droits de la défense dans cette procédure.
D'accord. Voilà. On va y revenir. On va y revenir sur ce dossier certainement dans nos prochaines éditions. Et un clin d'œil spécial pour le camarade Rasbat Mohamed. Et nous allons parler maintenant de Kidal, Kidal où on peut dire que l'accord d'Alger est aujourd'hui pratiquement en difficulté, on peut même dire qu'il est en danger, l'accord d'Alger. Et, le 5 avril, l'armée malienne a survolé avec des avions un peu quelques positions de la CEMA, la rébellion, l'ex-rébellion Touareg, qui a même fait un communiqué pour dire que il y a eu violation du cessez-le-feu par le gouvernement malien. Et qu'est-ce que vous répondez?
Bon, vous savez, vous connaissez ma position par rapport à l'accord. Depuis 2015, nous faisons partie de ceux-là dans notre pays qui ont estimé que l'accord était une voie sans issue.
Okay.
C'est un accord antinational qui remet en cause les fondements même de notre pays.
Okay.
Et il a fallu aujourd'hui environ 7 ans, 8 ans, pour que les gens puissent comprendre que l'accord n'était pas viable. Okay. Donc, c'est l'évidence aujourd'hui. L'accord n'est pas viable. L'accord n'a jamais été viable. L'accord a toujours été inapplicable. Et je voudrais rendre hommage ici à mon mentor, Dr Soumana Sako, qui, dès le départ, avec ses camarades politiques et autres, était clair, formel sur ça. L'accord n'est pas viable. L'accord n'est pas tenable. L'accord n'est pas dans l'intérêt du Mali. C'est une prime à la rébellion. C'est la falsification de l'histoire nationale. C'est la remise en cause des intérêts stratégiques de notre pays. C'est la remise en cause de la quiétude et de l'harmonie dans le septentrion de notre pays. Aujourd'hui, c'est une réalité évidente. Par rapport à ce que vous avez évoqué sur le survol du territoire malien, vous savez, Kidal, c'est quand même le territoire national.
Oui.
C'est notre pays. C'est le septentrion malien. Et les avions du Mali ont le droit de survoler le territoire malien, de faire leur travail de contrôle de l'espace aérien. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de provocateur, il n'y a rien d'inquiétant là-dedans. C'est le droit de notre pays. Notre peuple a consenti à des sacrifices pour acheter des avions et nous n'allons pas quand même garder ces avions sous les hangars de nos bases militaires, de nos bases aériennes. Ces avions ont le droit de survoler le territoire national pour protéger l'espace aérien de notre pays. C'est ce qui a été fait. Bon, la CIMA, qui est dépourvue de toute légitimité, hein, moi je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui que Je vais m'abstenir de le dire.
Oui.
Nous ne représentons pas les communautés du nord de notre pays. Nous ne représentons pas nos frères et sœurs Touareg. Ce sont des gens qui ont été manipulés par des puissances étrangères et auxquelles on a miroité l'illusion et qui se sont lancés dans ce projet. Le moment est venu de revenir à la maison.
Okay.
Le moment est venu de comprendre que c'est notre pays à tous, le Mali, de Kidira à Tezawaten. Et ceux qui se sont égarés, nous pouvons les comprendre et nous sommes disposés à faire en sorte que la nation puisse leur accorder son pardon. Qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments, qu'ils déposent les armes, qu'ils reviennent dans la République et ensemble, nous allons nous battre pour faire rayonner cette belle nation qui, depuis 10 ans, groupie sous une souffrance extraordinaire.
D'accord. Parlons maintenant des élections, hein, les élections générales, je parle de législatives et puis de la présidentielle. Est-ce qu'on peut aller aux élections à date indiquée, non, ça? Parce qu'on sait aujourd'hui que le fichier biométrique n'est pas suffisamment... le processus n'est pas encore fini. Hein. Les gens cherchent, ont du mal à voir le fichier biométrique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller aux élections aux dates indiquées?
Bon, vous savez, mon avis sur cette question est très clair. J'estime qu'il ne faut pas se précipiter pour aller aux élections pour donner naissance à des élections bâclées. Mais visiblement, ce n'est pas l'avis des plus hautes autorités qui aujourd'hui sont décidées à aller aux élections.
Vous donnez la confirmation ce soir?
Mais les autorités, je vous donne la confirmation. Les autorités de notre pays sont décidées à organiser les élections. Moi, je pense que c'est une erreur.
Okay.
Je pense personnellement.
Vous pensez que c'est une erreur, d'aller à des élections, quoi?
Sans être prêt.
Okay.
C'est une erreur d'aller à des élections sans être prêt. Nous avons tous vu qu'il y a une accélération de la mise en place de l'organe unique de gestion des élections.
Oui.
Elle est aujourd'hui, elle est en train de boucler la mise en place de ces démembrements jusqu'au niveau local. Cela témoigne d'une volonté ferme des autorités à aller vers les élections. L'organe unique, en tout cas dans le contexte actuel, est une nouveauté.
Okay.
On a connu la CENI avec son échec. Nous avons peur d'un nouveau échec. Et c'est pour ça, moi je plaide pour que l'on prenne le temps nécessaire en accord avec l'ensemble des acteurs. Pour aller à des élections correctes, pour qu'il n'y ait pas de contestation, pour que tout le monde soit dans cette belle fête démocratique. Et visiblement, les plus hautes autorités sont décidées à organiser les élections. Même s'il y a eu des glissements de calendrier, mais la tenue des élections est la première priorité
aujourd'hui
de nos autorités, en dehors de la sécurisation du pays.
Okay.
Après la sécurisation du pays, la priorité.
Mais qu'est-ce qui vous dire qu'ils ne peuvent pas réussir des élections, hein? Vous dites qu'il ne faut pas faire
d'élections bâclées. Vous savez,
ils ont quand même eu du temps pour préparer ces élections-là.
Vous savez, j'ai des inquiétudes.
Depuis 2020, la transition est là.
Oui, bien sûr. La transition est là depuis 2020. La transition a fait face à la situation sécuritaire. Aujourd'hui, les résultats sont probants. De moins en moins d'attaques sur les bases militaires. Aucune base militaire malienne n'est détruite aujourd'hui. Vous le constatez vous-même. C'était notre quotidien il y a quelques années. Aucun village n'est rasé aujourd'hui. C'était notre quotidien. C'était Ogusagou, Gangafani, Sobanda et autres. Et les efforts en matière de sécurisation sont aujourd'hui palpables. L'armée se construit, elle se modernise, elle se met en place. En 2020, le 18 août 2020, nous avions 22 000 soldats, 22 000 militaires. Aujourd'hui, c'est 65 000. C'est quand même l'expression d'une volonté affichée de construire un outil de défense capable de sécuriser le territoire national pour assurer notre dignité. Maintenant, je crois que ce travail n'est pas encore fini. Parce qu'il y a toujours quelques petites difficultés. Il y a des attaques sporadiques. Bon, c'est du grand banditisme. Et ce travail n'est pas encore fini. Il y a un seuil de sécurité qu'il faut atteindre avant d'aller aux élections. Ensuite, mon inquiétude, c'est que cette machine nouvelle, ce qui est l'organe unique, il faut prendre le temps de la mettre en place, cette machine-là. Il faut prendre le temps de l'essayer, de l'aider à décoller avant de se lancer dans les élections. C'est l'erreur qui a été commise, commise en 97. Je ne souhaite pas que la transition commette cette erreur. Parce que nous serons comptables de ça.
Mais qu'est-ce que vous préconiserez? Vous voulez que l'État prenne tout, le gouvernement prenne tout son temps avant d'organiser les élections? Quelle est l'alternative que vous suggérez?
Je pense qu'il faut le plus rapidement possible, avec l'ensemble des acteurs au niveau national et international, prendre le temps d'évaluer le processus à mi-chemin. Et au regard de cette évaluation, s'il y a nécessité de décaler légèrement le calendrier, il faut le faire. Il faut le faire. Au regard de l'évaluation, s'il y a nécessité de changer des dispositifs, il faut le faire. Mais les élections, ce n'est pas une fin en soi. Moi, je viens d'une mission.
Mais nous, ça, ce que vous oubliez, c'est que cette transition n'est pas venue, ce n'est pas la voie des urnes. Donc, elle a pris des engagements avec la communauté internationale pour faire des élections aux dates indiquées. Si on ne fait pas d'élections à ces dates indiquées-là,
vous savez
la légitimité, même la légitimité ou la légalité de ce gouvernement va se poser.
Attends, vous savez, les événements du 18 août prennent leur source où? Vous ne savez pas? Les événements du 18 août.
Oui, c'est les élections,
août,
les élections.
L'histoire de notre pays. Pas l'élection, les élections législatives. C'était l'élection présidentielle.
Depuis de 2018.
De 2018. Où nous, à l'opposition, nous avons refusé de reconnaître le président élu. Nous avions refusé de le reconnaître. C'était le début.
Mais vous n'avez pas reçu parce que la Cour suprême a...
Oui, mais écoutez, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle ne peut pas nous obliger à reconnaître un président. Nous avions refusé de le reconnaître. La preuve, deux ans après, nous n'avons pas hésité à demander sa démission au sein du mouvement
MC. Mais c'est pas ce mouvement qui a fait partir le président. Entre-temps, Ibeka était assis et bien assis.
Non, mais je
il
vous
a
dis,
fallu les élections.
C'est le début. C'était le début. La crispation de l'espace politique. La véritable crispation de l'espace politique a commencé avec l'élection présidentielle de 2018. Où, pour la première fois dans l'histoire politique du Mali, le challenger du président a refusé de le reconnaître. Ça ne s'était jamais passé dans notre pays. Et ensuite, l'opposition a continué malgré les difficultés et l'élection législative est venue. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et ensuite, ça en est ajouté d'autres crispations.
Okay.
Le président, on était obligé de mettre en place un vaste mouvement pour demander le départ. Donc les élections, c'est quelque chose d'extrêmement important.
Okay.
Parce que moi, je souhaite vivement que ce soit la dernière transition pour mon pays. Et lorsque on ne prend pas le temps d'organiser des élections propres, où la légitimité va s'imposer, où le pouvoir issu va être reconnu par tous, mais c'est quand même laisser le loup entrer dans la bergerie.
Okay,
c'est pas...
Il vous faut combien de temps pour vous, raisonnablement, il vous faut combien de temps pour organiser des élections propres, comme vous le dites?
Bon, je ne peux pas vous donner un deadline.
Oui.
J'ai demandé, je pense qu'il faut évaluer le processus.
Okay.
Pas l'évaluation du gouvernement seul ne suffit pas. Il faut l'évaluer avec l'ensemble des acteurs.
Oui.
Et ce n'est qu'après cette évaluation qu'on peut se fixer un cap avec un tableau de bord des tâches à exécuter.
Mais ça, c'est des choses qui devaient être faites en amont.
Non, le processus est en cours. Le processus est en cours, mais il faut l'évaluer aujourd'hui. C'est important. Il ne faut pas se jeter dans les élections sans évaluer le processus. Ce n'est pas une bonne chose.
Et le processus devait être évalué, ce n'est pas aujourd'hui qu'on...
Non, le processus est en cours. Le processus est en cours. Les autorités, le gouvernement procèdent à des évaluations.
Mais c'est comme si, hein, quand on vous entend parler, on a comme l'impression que vous préconisiez une course de lenteur. On n'est pas dans une course de lenteur.
Non, pas du tout.
Vous n'êtes pas pressé,
Non, pas du tout. Comment nous ne sommes pas pressés?
Ils nous pressent.
Vous savez que le CNT a adopté au moyen d'une session extraordinaire la loi sur le découpage territorial. Quand quelque chose est extraordinaire, c'est que c'est urgent.
Okay.
Ce n'est pas en session ordinaire, mais en session extraordinaire.
Okay.
Parce que le découpage territorial conditionnait la mise en place de l'organe unique, des démembrements de l'organe unique de gestion. Pensez-vous que si nous ne sommes pas pressés, nous allons faire convoquer une session extraordinaire? Non, on aurait pu attendre la session ordinaire si nous ne sommes pas pressés.
Okay.
Mais c'est parce que nous estimons qu'il y a urgence, qu'il faut se hâter, mais il ne faut pas bâcler. C'est ça le plus important.
D'accord.
Et quand on n'évalue pas le processus, par l'évaluation des seuls acteurs gouvernementaux n'est pas suffisante.
Okay.
Il faut l'évaluer avec l'ensemble des acteurs du processus pour ensuite fixer un cap qu'on va respecter. J'ai des inquiétudes sérieuses.
Oui.
Parce qu'il ne s'agit pas de faire des élections.
Oui.
Et de mettre en place des institutions.
Mm-hmm.
Il s'agit de faire des élections propres,
okay.
de mettre en place des institutions légitimes
oui.
qui seront reconnues par tout le monde, où il n'y aura pas de contestation.
Mais c'est ce qui a été dit
c'est
depuis.
Ça.
C'est ce qui a été dit depuis.
Mais c'est en cours.
Hein?
C'est en cours, cher ami. C'est en cours.
C'est ce qui a été dit.
Depuis. Et de façon urgente.
Oui,
voilà.
D'accord, on va, le peuple avisera. Et les initiateurs ou organisateurs de l'appel du 20 février pour sauver le Mali n'est pas dans votre dynamique. L'appel du 20 février appelle à des organisations, l'organisation d'élections aux dates indiquées.
Bon, ils sont dans un combat politique, c'est normal. C'est normal. Je crois que l'initiateur même de l'appel est celui-là même qui a mis en place un parti. Pour demander à l'actuel président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de se présenter et d'être candidat.
Il disait que c'était dans un autre contexte.
Voilà des gens qui agissent comme ça, qui disent des choses aujourd'hui, qui sont prêts à défendre Mordicus, le contraire, ne sont pas des gens sérieux.
Okay.
Ce ne sont pas des gens crédibles, pas des gens fiables. C'est pourquoi nous avons laissé...
Vous ne craignez pas que ce soit une vraie opposition
nous avons
pour
laissé...
faire barrage? Et pour faire barrage, peut-être.
Bon, vous savez, moi je suis un habitué aguerri des combats politiques.
Okay.
Ça ne nous impressionne pas.
Okay.
Et vous le savez mieux que quiconque. Ça ne nous impressionne pas.
Okay.
C'est leur droit d'exprimer leur point de vue dans le cadre du respect des textes de notre pays. C'est leur droit de demander le retour à l'ordre constitutionnel.
Okay.
Et,
vous le comprenez
et voilà. Non, c'est le droit. Ça, nous sommes dans un état de droit, un état démocratique.
Okay.
Même si c'est un contexte de transition,
oui.
les libertés publiques sont respectées dans notre pays. Nous sommes quand même sous la transition, ça fait presque 3 ans, aucun journaliste n'a été enlevé. Okay. C'était quand même le quotidien il y a quelques années.
Oui, mais les télés ont été fermées quand même sous cette transition.
Par l'État. Les télés ont été fermées par la haute autorité, qui est quand même un organe essentiellement composé d'hommes de médias, c'est-à-dire de gens... essentiellement composé d'hommes de médias, de journalistes, des gens qui ont fait serment de défendre la liberté de la presse. Et ce ne sont pas les autorités qui ont demandé la fermeture d'une télé. C'est un organe indépendant, autonome, qui a agi en toute indépendance, en toute autonomie.
C'est cette indépendance, les
autorités. Mais nous mettons en défi quiconque de nous prouver le contraire. Parce que, sous cette transition, aucun journaliste n'a été enlevé. Cheikh Oumar Konaré a été tabassé ici, dans les années 80, dans les années 2000, dans les années sous le régime Alpha. Le grand frère Saouti Haïdara, sous la transition de 2012, a été passé à tabac.
Mais sauf que la transition n'est pas encore finie.
Non, mais un journaliste a disparu jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où il est. Donc, vous, les journalistes, vous êtes les témoins oculaires de notre histoire. Okay. Et vous ne pouvez en aucune manière dire que les libertés publiques sont mises en cause.
Nous, on est très mal placés. Au niveau de Diouliba, on est très mal placés pour parler ou pour défendre cette question-là.
Ce n'est pas votre rôle de défendre les gens. Vous donnez la parole librement.
Très mal placé pour juger cette question des libertés, parce qu'on suppose qu'on a été fermé ici sous cette transition. Donc, voilà.
Par l'organe des journalistes.
C'est-à-dire que les responsabilités seront ensuite.
Vous avez été fermé par l'organe des journalistes.
Mais qui est rattaché à quelle structure?
Non, vous savez, c'est une autorité indépendante. Elle est indépendante. Le ministre ne donne pas des ordres à cette autorité. C'est ce que la loi sur la Hague dit. C'est clair. C'est écrit noir sur blanc.
Entre ce qui est écrit et entre ce qui est fait, donc, vous savez qu'il y a une grande différence. Quand même.
C'est pour vous dire.
Vous savez.
Donc, Et cette question, elle est importante.
Oui, allez-y.
Il faudra qu'on dise la vérité. Vous pensez que si c'était l'émanation d'une volonté claire des autorités, moi j'aurais condamné la fermeture de...
Vous êtes un homme libre.
Oui, je suis un homme libre. J'ai toujours été un homme libre.
Vous n'êtes pas
attaché à tout. Si c'est de façon concertée et tout ça là, bon, peut-être que ça ne serait même pas fait. C'est parce que la Hague a décidé. La Hague est indépendante. Ce n'est pas le colonel Assimi Goïta, ce n'est pas le colonel Malik Diaw, ce n'est pas le gouvernement qui a fait injection à la Hague. Moi, je peux vous confirmer ça. C'est une autorité indépendante, totalement indépendante, qui agit de façon indépendante. Okay. Lorsque la Hague donne des fréquences là, mais vous ne dites pas que c'est le gouvernement qui a...
On verra.
Lorsqu'elle sanctionne, vous voyez le gouvernement. Les autorités ont d'autres préoccupations que de s'occuper de la fermeture de l'hôtel.
On va citer les responsabilités, un jour ou l'autre, les responsabilités seront citées.
Non, l'histoire situera les responsabilités,
parce que nous avons aussi beaucoup d'informations, nous sommes des journalistes, vous l'avez dit, nous sommes les témoins de l'histoire, nous avons aussi des informations, moi venu, nous parlons.
J'espère que vos informations ne sont pas cousues de rumeurs.
Non, pas de rumeurs, ceux qui nous connaissent savent que nous sommes... nous sommes très sérieux, nous avons une crédibilité certaine. Voilà. Ouais. Donc, au moment venu, nous parlerons. Donc, Noussar, parlons maintenant. Est-ce qu'il y aura une candidature des militaires, peut-être? Est-ce que vous faites campagne, vous allez faire campagne pour des militaires qui souhaiteraient être candidats?
Bon, ce n'est même pas à l'ordre du jour. Moi, j'entends des gens, le colonel Assimi Goïta est candidat, ceci, cela.
Oui.
Vous savez que ma seule préoccupation aujourd'hui pour le colonel Assimi Goïta et ses camarades, c'est de ramener la paix et la sécurité dans notre pays.
Okay.
C'est de réussir cette mission de la transition.
Mm-hmm.
C'est de réussir à donner à notre pays une armée moderne, performante, capable de protéger notre pays.
Okay.
C'est de faire en sorte que la démocratie puisse survivre à toutes les péripéties de l'histoire.
Mm-hmm.
Je suis formel. Le colonel Assimi Goïta n'a dit à personne, je dis bien personne, qu'il est candidat. Maintenant, ceux qui souhaitent qu'il soit candidat, c'est leur droit aussi de souhaiter. S'il y a des gens qui souhaitent qu'Ataïr soit candidat...
Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat, non? Non. Moi,
je suis préoccupé. Ouais. Je partage les mêmes préoccupations que le colonel Assimi Goïta. Okay. C'est réussir la transition. Mm-hmm. Vous savez, beaucoup de gens agissent, que ce soit en politique, que ce soit dans la société civile, sans tenir compte de la croyance en Dieu, du destin.
Okay.
Il y a quelques années, le colonel Assimi Goïta n'a jamais pensé qu'il allait occuper les hautes fonctions de ce pays.
Oui.
Et le destin et les circonstances de l'histoire ont fait qu'il accède à ce poste.
Okay.
Demain, là, c'est Dieu qui connaît. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous. Et je sais qu'il est profondément croyant. Moi, je suis profondément croyant. Si vous devez occuper un poste, vous allez l'occuper, quel que soit le temps.
Okay.
Je vous donne un exemple. En 2020, moi, j'ai été candidat aux législatives en commune 4. J'ai eu 300 voix, ou plus ou moins. Mais trois mois après, ceux qui sont rentrés comme députés, Dieu les a fait sortir et moi, je les ai remplacés.
Okay.
Ça, c'est le destin.
Okay.
Donc, quelqu'un qui a vécu ça ne peut pas être dans un plan. Oui, les plans n'ont jamais fonctionné.
Okay.
Les plans n'ont jamais fonctionné dans notre pays.
Okay.
Donc, nous faisons bien ce que nous avons à faire, qui est de conduire la transition pour laquelle nous avons été investis, pour laquelle notre peuple, la transition à laquelle notre peuple croit. Nous sommes dans cette transition. Nous faisons chaque jour. Moi, je crois fortement au temps présent.
Okay.
Faites ce que vous avez à faire de bien dans le temps présent. Demain, là, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient à personne.
Okay.
C'est demain qui viendra vous trouver dans votre présent.
Okay.
Et je crois que j'ai vu des gens en parler. Ce n'est même pas un sujet de débat.
Donc pour vous, ce n'est pas à l'ordre du jour.
Ce n'est même pas à l'ordre du jour. Les plus hautes autorités de la transition sont préoccupées par la réussite de la transition.
Est-ce que c'est une, pour vous, c'est une bonne option?
Je ne sais pas. Je n'ai même pas réfléchi à ça.
Okay.
Parce que je ne suis pas quelqu'un qui se lance dans demain en oubliant aujourd'hui. Nous avons été désignés pour être membre du Conseil national de transition. Est-ce que nous sommes en train de remplir notre fonction conformément aux aspirations légitimes du peuple? Est-ce que nous sommes en train de faire le travail pour lequel nous avons été choisis? Moi, je crois que cette réponse, c'est aux Maliens de répondre.
D'accord.
Et certainement, nous avons peut-être, il y a toujours des erreurs, c'est clair qu'on commet des erreurs, mais notre volonté inébranlable est le bonheur de notre peuple et de notre pays. Le retour de la paix, la défense du territoire, la défense de notre souveraineté, le bien-être et le bien-avoir de l'ensemble de nos concitoyens.
D'accord, Noussar. Nous, on va tenter d'évoquer, on va tenter d'ouvrir la dernière rubrique de l'émission, rubrique questions directes. Rubrique. Dans cette rubrique, nous tenterons de donner la parole directement aux téléspectateurs pour une, deux ou trois questions, des questions directes à notre invité. Notre invité ce soir est Noussar, président du FAD, Front africain pour le développement. Il est membre du CNT. Si vous souhaitez rentrer en direct dans cette émission, vous pouvez poser votre question, faire votre contribution, mais vous devez vous éloigner un tout petit peu de votre poste pour qu'on puisse avoir une meilleure écoute ici. Bonsoir. Bonsoir.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir. Vous êtes en direct sur Dieu Libre TV.
Ça va bien, merci. Je vous suis avec attention.
Parlez un peu plus fort.
Je vous suis avec attention.
Oui.
Et je préfère rester dans l'anonymat.
Oui, allez-y.
L'invité du jour, c'est un camarade de lutte.
Ok.
Je partage beaucoup de ses propos.
Oui.
Mais c'est surtout la question élection. Je ne me retrouve pas trop sur la question électorale avec lui.
Oui.
Bon, pratiquement, nous sommes pratiquement à la fin du. On est déjà à 3 mois de transition. Bon, la question électorale, bon, ça me paraît vraiment. Il n'a pas été convaincant sur ce point.
Il a été peu convaincant.
Il y a eu suffisamment de temps pour vraiment aborder la question de l'élection présidentielle.
Oui.
Et si toutefois, nous, trouvons que c'est pas le moment de faire opposer pour ça, je ne partage pas son avis.
Ah, ok. Vous ne partagez pas.
Sinon, je partage tout le reste avec lui.
Vous ne partagez pas l'avis de votre camarade.
Oui, C'est un camarade de lutte. Je préfère rester dans le monde. On appelle la lutte MK Nakam. Même le jour de son arrestation, j'étais à ses côtés.
Certainement qu'il reconnaît la voix. Hein.
Bien sûr, je reconnais la voix.
Peut-être.
Comme il se fait.
Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup. Ouais, Nozara, c'est de vos camarades de lutte. Hein, voilà, il dit qu'il partage les autres avis. Mais sauf la question, pour lui, sur la question des élections.
Bon, voilà, je reconnais la voix de celui qui a appelé. C'est vraiment un camarade de lutte, quelqu'un que j'apprécie énormément. Je ferai taire son nom parce qu'il ne souhaite pas. Il souhaite rester dans l'anonymat. Et en effet, il me connaît. Je suis quelqu'un qui assume ses points de vue et ses prises de position. Je pense vraiment. Et chaque prise de position que j'ai faite, a fini par s'imposer à ce pays. Malheureusement, a fini par s'imposer à ce pays. J'ai dit...
Vous pouvez nous rappeler quelques-unes de vos prises de position phares qui ont fini par s'imposer au pays.
En 2013, lorsque j'ai été directeur adjoint de campagne de Zoumana Sako, que le président Ibeka a été élu, mais j'ai dit clairement que le Mali, c'est terminé. Et que tôt ou tard, c'est une transition qui va s'imposer. Ça a fini par s'imposer. Ça a fini par s'imposer. Et donc...
Oui, on va prendre une direction.
L'accord d'Alger, j'ai été clair. J'ai dit dès le départ, en 2015, dès les prix accords, c'était d'abord les éléments de synthèse, prix accord et accord. Nous avons dit que ce n'est pas bon. Aujourd'hui, ça s'est imposé. Et donc, moi, je ne veux pas qu'on aille vers des élections de façon précipitée au risque de bâcler les élections. Ce n'est pas une bonne chose. Je crois que Ousmane Sy a été clair sur cette question aussi. J'ai vu un de ses tweets.
Enfin, ça, c'est, on dit que c'est ancien, ce n'est pas un tweet nouveau.
Oui, je ne sais pas. Voilà, bon, je n'ai pas discuté avec lui, je vais peut-être l'appeler.
C'est un ancien tweet.
Je vais peut-être l'appeler.
Bonsoir.
Bonsoir,
ça va?
Comment allez-vous?
Oui, bien, alhamdoulilah.
Je suis sur Djoliba.
Oui, c'est Djoliba, oui.
Ok.
Votre nom?
Mamadou Traoré.
Mamadou Traoré, vous nous appelez depuis...
J'appelle de Bamako.
Ok, Mamadou Traoré.
Excuse-moi, Bako Djikoroni Haché.
Ok, Mamadou Traoré, vous êtes en direct.
Oh. Ok, très bien. Je vais intervenir un peu par rapport à mon camarade de lutte, Moussa.
Ok.
Non, si il m'attend bien, c'est Mamadou Traoré, communément appelé le roi.
Le roi.
Le président d'Alternative pour le Mali.
Le roi, ok, le roi.
Bon, franchement, moi, je ne comprends rien, quoi.
Oui.
Le comportement de la classe politique, surtout les politiciens comme nous, Sar, qui sont au CNT présentement.
Oui.
Je trouve le comportement très bizarre.
Oui.
La question que vous avez posée, c'est une question très importante. De dire qu'ils sont en train de faire des campagnes pour le gouvernement. C'est une réalité que vous avez parlé. Je ne peux pas comprendre que les gens qui sont au CNT, des hommes politiques comme les Noussar, ils n'arrivent pas à jouer leur rôle. Ce sont eux qui doivent répondre à la place de la population. Noussar a été candidat à la commune 4 pour être député. Mais moi, je pensais que s'il avait gagné les élections, il allait être un bon député à l'Assemblée. Et ce n'est pas de comportement vraiment qui peut rassurer la population. Aujourd'hui, je vais prendre des exemples.
Poser une question, qu'est-ce que vous reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez concrètement?
Leur comportement. Ils sont à la disposition du régime. Ce n'est pas normal. Le rôle d'un député, Noussar connaît. Ce que je leur reproche, quand Noussar arrive à dire, par exemple, je prends un exemple, quand il arrive à dire que la priorité, ce n'est pas les élections, retour à l'ordre constitutionnel. Un homme politique ne peut pas dire dans une transition que la priorité, ce n'est pas les élections. Si ce n'est pas les élections, il s'agit de quoi? Il faut qu'on ait aux élections. Et quand je les vois aussi jouer le rôle, c'est vrai, ce sont eux qui ont révisé, le projet d'avant-projet qui a été proposé. L'avant-projet, là, c'est leur boulot. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils veulent s'imposer à les Maliens. Les Maliens ne se trouvent pas dans ces projets, les projets qu'ils viennent de soumettre à le président. Et la loi dit qu'on ne doit pas toucher le projet là et la constitution tant qu'on n'a pas un président démocratiquement élu avec des députés démocratiquement élus.
Okay.
Ils veulent forcer la situation.
Ok, Mamadou Traoré, on a bien compris, oui. Hein, on a bien compris vos questions, vos-même, vos inquiétudes. Hein. Oui, oui, Mamadou Traoré qui dit qu'il s'appelle le roi.
Je pense qu'il n'a même pas écouté l'émission, parce qu'à aucun moment on n'a parlé de procès de constitution sur ce plateau. Il n'a pas écouté l'émission. Oui. Il dit que bon, c'est nous qui devons être le porte-voix du peuple. Oui. Je n'ai pas vu dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire politique de notre pays, que ce soit l'ère démocratique ou pendant la transition, une interpellation aussi rude. Que celle que moi, Nounsa, j'ai adressée au Premier ministre de transition. Oui. C'était quand même une remise en cause du style. Mm-hmm. Et je pense que ça a payé, parce qu'entre-temps, l'homme a opéré un changement que vous constatez, vous constatez tous. Sous l'aide démocratique qu'ils défendent là, il n'y a pas eu ça. Donc, nous sommes libres de défendre. Je connais bien celui qui a appelé. Je sais comment il fonctionne. Je sais que c'est quelqu'un qui a chercher des choses, tout ça, mais bon, ça c'est ça regarde sa personne. Mais sur les élections, je n'ai pas à aucun moment dit que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une priorité. J'ai dit qu'il ne faut pas des élections bâclées. Pour ne pas avoir des élections bâclées, il faut évaluer le processus avec l'ensemble des acteurs cette fois-ci. C'est pas le gouvernement seul qui va évaluer, mais l'ensemble des acteurs au plan national et international. Corriger ce qu'il y a à corriger. Si cela nécessite un décalage, je crois personnellement que ça nécessite un décalage, il faut le faire.
D'accord, on me signale qu'il y a un téléspectateur au bout du fil. Bonsoir.
Allô.
Bonsoir.
Allô, bonsoir, ça va?
Oui, très bien, Alhamdoulaye, ça va et vous-même?
Djoliba TV.
Oui, c'est Djoliba TV. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît.
Moussa Sanogo.
Moussa Sanogo.
De Animakoro.
Ok, Moussa Sanogo.
Oui, donc je partage mes mêmes idées que Moussa.
Oui.
Je vise Moussa de 2000, Moussa de 2000. Je pense que c'est un grand changement aujourd'hui.
On vous entend très mal ici, hein?
Oui, c'est un grand changement aujourd'hui quand même.
Vous dites que Moussa?
Oui, Moussa. Par rapport à Moussa, tout ce qu'il vient de dire.
Oui.
Aux conduites, c'est-à-dire d'une réussite de la bonne transition. Donc, je pense que l'idée qu'il a eu à défendre, c'est une bonne idée.
L'idée qu'il défend est une bonne idée?
Oui, c'est des bonnes idées quand même. Moi, je partage les mêmes idées que lui.
Ok.
Voilà. Parce que je pense qu'il n'a qu'à continuer sur le même chemin. Il ne faut pas qu'il se laisse balatiner par les politiciens et autres choses là.
D'accord.
Parce que nous, tous citoyens, nous comptons beaucoup pour la réussite de la transition. En même temps, pour les bonheurs du pays.
Ok, c'est bien
je
compris.
Pense que là, c'est de bonne voie.
Merci Moussa Sanogo. Moussa, c'est voilà, quelqu'un qui dit. Oui. Merci, bonne soirée.
J'aurais besoin de lui-même en personnel.
Ok, ok.
Je remets mon numéro à sa position.
D'accord.
Voilà. Merci beaucoup.
Volontiers.
Merci, c'est gentil. Il vous suit à écouter. Ok, donc Moussa, c'était quelqu'un qui dit qu'il partage. Le même avis que vous hein, sur la question des élections. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir, ça va?
Ça va, Abdoulaye Massina Diallo.
Oui, Abdoulaye Massina Diallo, ça va?
Ça va, alhamdoulilah.
Vous êtes en direct sur Djoliba TV News.
Merci beaucoup. Permettez-moi de saluer mon camarade d'élite, Moussa.
Oui.
Je vous appelle depuis Bamako.
Oui.
Je crois qu'il va me reconnaître à travers ma voix.
Bien sûr.
Oui.
Je partage humblement tout ce qu'il a dit sur ce plateau et j'ai écouté avec intérêt.
Oui.
Et franchement, moi, je veux ce genre de cette jeunesse qui est vraiment. Je m'identifie vraiment à mon cap.
Ok.
Et je partage. Tout ce qu'il a dit sur ce plateau.
D'accord.
Notamment l'interpellation du Premier ministre, même si le gouvernement est une équipe.
Oui.
Et s'il y a des choses à rectifier, on peut faire sans tabou.
OK.
Je le connais personnellement, on échange beaucoup. On échange que sur le Mali.
Oui.
Et à chaque fois qu'on se voit. Et donc, je l'encourage sur ce lancer. Et. Voilà, comme il a dit, les élections vraiment sont nécessaires, mais la sécurité des Maliens est vraiment prioritaire.
Ok.
On peut pas, on a fait que des élections dans ce pays-là, mais il faut se préparer cette fois-ci pour que, comme il a dit, pour que ça soit une dernière transition pour notre pays.
D'accord. D'accord.
Et je l'encourage qu'il continue et je sais qu'il a un avenir meilleur devant lui. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci, Noussar. Hein, ce soir, ce sont vos camarades, hein, des camarades de lutte qui ont appelé. Hein,
oui, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, c'est lui qui vient d'appeler.
Tellement qu'ils sont heureux de vous retrouver à l'antenne.
Bon,
il est temps aussi de faire un tour, aller les voir en famille.
Oui, bien sûr, c'est lui qui vient d'appeler.
On va prendre une dernière réaction et puis voilà. Bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Je vous appelle depuis Libreville, je m'appelle Soumane Koulibaly.
Vous appelez depuis
Libreville.
Libreville, ok. Bienvenue, Malik Koulibaly.
Ousmane.
Souleymane Koulibaly.
Souleymane Koulibaly.
Souleymane Koulibaly, ok, Souleymane.
Oui,
oui.
Nous...
Bienvenue.
Je l'encourage.
Oui. Oui, Souleymane.
Et je l'encourage pour sa prise de position concernant cette transition.
Ok.
S'il continue comme ça, il a l'avenir devant lui.
Ok.
Je suis entièrement d'accord avec lui concernant son point de vue sur les élections.
D'accord.
Parce que une fois l'élection bâclée, cette transition ne servira à rien.
Ok.
Il faut que ce qu'il dit. Une évaluation nécessite entre le gouvernement et toutes les affaires concernées pour évaluer quel est le niveau de processus pour que on puisse avoir des élections libres et transparentes. Et ça sera une réussite pour la transition. Dans une élection bâclée, la transition aura échoué. Ça, c'est mon point de vue.
Ok, merci Ousmane Koulibaly. Hein. Nous saluons tous les compatriotes maliens depuis Libreville. Nous saluons.
Oui, j'ai reconnu la voix de Massina Diallo, qui est vraiment un jeune très engagé pour la cause de notre pays, avec lequel nous avons fait, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, d'ailleurs, parce que je suis son grand-père, qui passe me dire bonjour au bureau.
D'accord.
Et
voilà, en fait. Il y a Mamadou Traoré aussi, hein, le roi qui dit que vous êtes aussi un camarade,
je pense. Oui, c'est le roi, je le connais, il est à Bakodjigrodi. Je le connais, même si on ne partage pas certains points de vue. On a eu à partager des points de vue dans le passé, aujourd'hui, on ne partage pas les mêmes points de vue. C'est aussi ça la beauté de notre démocratie.
Bien sûr.
Il est important que les gens soient lucides.
Oui.
La communauté internationale a mis 20 ans pour comprendre qu'en Afghanistan, les élections n'ont rien servi. Okay. Pendant 20 ans, la condition de l'engagement de l'argent du contribuable américain était un pouvoir issu d'élections. Okay. Ils ont fait l'élection. Il y a eu Hamid Karzai, il y a eu celui qui est parti, il y a eu autre. Il y a toujours eu des élections en Afghanistan.
Okay.
Mais le pays est tombé en une matinée. Ils ont mis 20 ans pour comprendre que leur référentiel chez eux n'est pas compatible avec les contextes d'autres pays, d'autres horizons. Ils ont mis 20 ans pour comprendre. C'est un cas au cadre d'une organisation de la communauté internationale, d'un pays occidental, qui m'a dit, mais nous, on a mis 20 ans pour comprendre ça.
Okay.
Ils ont mis 20 ans pour comprendre. Et nous, on a compris ça aujourd'hui. Nous, on n'a pas eu besoin de 20 ans pour comprendre.
Okay.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les élections. Une transition dans un contexte normal, c'est-à-dire dans un contexte normal où il n'y a, a pas crise sécuritaire, il n'y a pas crise de gouvernance, il n'y a pas terrorisme, il n'y a pas séparatisme. Dans un contexte normal, il est appelé quand même à être une petite parenthèse de quelques mois.
Okay.
Ou de quelques mois, de quelques années, tout au plus.
Oui.
Mais nous sommes dans une transition anormale. Il y a la crise sécuritaire, la crise terroriste, le séparatisme, il y a les tensions avec une partie de la communauté internationale, les gens veulent nous vassaliser. Vous pensez qu'on doit s'amuser avec les élections, avec le processus électoral? Si les élections ne marchent pas, qui sera comptable du bilan? Ce ne sont pas ceux qui sont en train de dire aujourd'hui, précipitez-vous pour aller aux élections, quelle que soit la situation. Ils ne seront pas comptables du bilan. Ils seront les premiers à vilipender les acteurs de la transition.
ils seront les premiers à dire ces gens-là, ils ont même été incapables d'organiser proprement les élections. C'est mon inquiétude. Et c'est pourquoi j'interpelle les plus hautes autorités. Ce n'est pas leur avis. Je vous ai dit que la volonté ferme
c'est de faire des,
des plus hautes autorités, c'est de faire les élections. Comme les gens le demandent. Mais quelle élection? Quelle élection? Vous pensez qu'aujourd'hui, si on donne les élections, le candidat de la mouvance, de notre mouvance souverainiste va perdre? Vous pensez ça? Mais non. On va les battre à plate couture. Mais il faut qu'on fasse de bonnes élections. Et de bonnes élections, c'est une élection où tous les acteurs ont confiance au processus. Ils évaluent le processus ensemble. Ils décident de la suite du processus ensemble. C'est ce que je souhaite. Je ne veux pas des élections bâclées. Je ne veux pas de ça dans mon pays. Je veux que ce soit la dernière transition pour le Mali. Si nous ne prenons pas garde que nous allons aux élections précipitées, bâclées, notre pays...
Nous savons, on est pratiquement à la fin de l'émission. Si vous avez un message pour les Maliennes et les Maliens qui nous regardent ce soir, c'est quoi le message?
Mais je voudrais leur dire de tenir bon. Ils ont tenu bon, de continuer à tenir bon. Aujourd'hui, notre pays a retrouvé sa respectabilité sur le plan international. Notre pays a recouvré sa souveraineté décisionnelle. Personne ne dicte au Mali. Les décisions sont prises de façon souveraine. Aujourd'hui, notre armée a amorcé un véritable processus de modernisation. De 22 000 hommes, nous sommes à 65 000 hommes. C'est extraordinaire. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, en tout cas, au cours des 30 dernières années. Aujourd'hui, la voix du Mali porte. La dignité du Mali est respectée. Lorsque vous voyagez, on vous regarde avec l'œil de fierté. Ce sont des acquis que rien au monde ne doit nous permettre de remettre en cause. Je vous ai dit, il y a aussi des difficultés. Tout n'est pas rose. La question de l'électricité est une question structurelle qui mérite l'attention des plus hautes autorités, qui mérite l'implication de tous les acteurs, qui mérite que l'on s'asseye et que l'on dit ce qui n'a pas marché et que l'on travaille pour faire marcher ce qui n'a pas marché. L'électricité, l'énergie doit être une priorité de notre pays. Aujourd'hui, notre jeunesse, son école, notre jeunesse, l'agriculture, les métiers techniques doivent être, doivent faire partie de nos priorités. Et c'est pourquoi nous continuons à soutenir toutes les actions dans ce sens et dire à notre peuple de ne pas écouter les chants de sirène des gens désespérés qui n'ont plus rien à perdre, qui ont été ici, qui ont fait ici. Si c'était facile, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Qui ont été incapables de doter notre pays de systèmes de santé, qui ont pris l'argent de notre pays parce qu'on les a formés. C'est eux, ils ont été formés à l'internat. C'était l'internat, le lycée Askia, le lycée de Badla. Mais nous, on n'a pas eu la chance d'être à l'internat. Ils ont été nourris par le Mali. Mais ils n'ont pas réussi, comme l'a dit le président français, à redresser le Mali. La nouvelle génération d'hommes politiques à laquelle nous appartenons feront tout pour redresser le Mali. Je crois que ça a commencé avec la modernisation de l'armée, la souveraineté décisionnelle retrouvée et voilà la sécurité qui aujourd'hui est en train de connaître quelques évolutions positives, même si tout n'est pas réglé. Donc, vous remerciez vous aussi pour l'excellent travail que vous faites.
Merci beaucoup.
En libéralisant la parole, en donnant la parole à tout le monde, opposants, détracteurs,
tout le monde a la parole ici,
sans parti pris.
Et tout le monde a la parole. Voilà, nous ferons notre contribution. Nous aurons pleinement notre contribution au débat démocratique. Merci, Noussa.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, et puis bon vent, peut-être pour le livre qui ne va pas tarder à sortir. On va
garder, le lancement, c'est certainement le mois prochain.
Voilà. Carnet de l'espoir.
Le carnet de l'espoir.
Ok. On aura l'occasion d'en parler ici.
Absolument.
Merci déjà, félicitations et puis bon vent. Et vous êtes le président du Front africain pour le développement, FAD. Merci, et membre du CNT. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission, émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours. Renouvelle le programme de Djoliba TV News. Au revoir et à jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission En toute liberté. Thank you.
en toute liberté.